Responsable de l'action culturelle, chargé de médiation, chargé du pôle transmission, ce sont autant de dénominations qui reflètent l'instabilité et la multiplicité que recouvre la notion de médiation. Est-ce la mise en relation d'un public avec un artiste? Une mission de transmission? Pour y voir plus clair, nous avons rencontré Pia Galloro, responsable de l'action culturelle de l'ensemble intercontemporain, et Arnaud Julien, chargé du pôle transmission du GMEM, le groupe de musique expérimentale de Marseille. Bonjour Pia, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, donc je suis Pia Galloro, responsable de l'action culturelle pour l'ensemble intercontemporain.
C'est quoi, pour toi, le métier de responsable de l'action culturelle ?
C'est permettre à, par exemple, un ensemble d'aller voir d'autres publics et d'expérimenter des choses dans un espace de création un peu en parallèle de la programmation. Donc ça peut être des créations avec des amateurs, ça peut être réfléchir un peu sur des modes de transmission pour des jeunes professionnels, et à l'extrême inverse, des enfants qui n'ont jamais fait de musique. En tout cas, c'est dialoguer avec ces publics et s'interroger sur les liens que peut avoir la musique avec ces publics-là.
Tu pourrais nous donner trois qualités ou compétences que tu estimes indispensables pour faire ce métier ?
Je pense qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait. Parce que c'est pas forcément évident, la médiation en France particulièrement n'est pas forcément appréciée à sa juste valeur. Être convaincu que la culture qu'on défend doit être accessible à toutes et à tous, mais aussi que les publics ou les non-musiciens ou les personnes qui ne sont pas du milieu ont des choses à apporter. Il faut aussi avoir une vraie exigence artistique et de projet, c'est-à-dire on dit souvent que le projet en lui-même est important, mais la restitution doit aussi être de qualité, de manière à ce que le travail qui a été mené puisse avoir une vitrine, un aboutissement qui soit tout aussi exigeant qu'une production plus classique. Et la troisième, c'est la créativité, parce qu'il faut trouver des idées pour faire connaître un répertoire, mettre en dialogue des pratiques et s'interroger en permanence sur les liens avec le public.
Donc on est à peu près tous d'accord pour dire que la médiation, bah, c'est primordial. Et du coup, pourquoi, pour toi, la médiation, c'est important ?
Le milieu de la création, en particulier, peut être un peu en huis clos. C'est-à-dire qu'il faut certains codes. Et si on ne permet pas à des personnes qui n'ont pas de lien avec notre milieu de découvrir certaines esthétiques, malheureusement, je pense que personne ne viendra les chercher. La médiation, ça permet de faire découvrir. Alors par contre, je ne pense pas qu'on soit dans une idée de renouvellement des publics. Je trouve que ça, c'est un objectif qui est trop lourd parce que souvent, les postes sont quand même très limités. Il y a une personne par équipe ou deux, trois. Ce n'est pas suffisant pour renouveler complètement des publics. Mais en tout cas, de faire découvrir, ça, je pense que c'est important, la médiation dans ce sens-là.
Chargé de la transmission, responsable de l'action culturelle, chargé de médiation. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve jamais le même nom de poste ?
Je pense que ça dépend de l'histoire des structures et des équipes. Il y a des structures dans lesquelles la médiation existe depuis toujours, pour lesquelles la direction, par exemple, les tutelles défendent vraiment ces domaines, ces postes. Donc assez vite, c'est des postes à responsabilité qui sont considérés comme les autres, comme un responsable de production, comme un responsable de programmation ou de communication. Il y a d'autres structures où peut-être qu'il y a moins de moyens ou peut-être moins d'envie. Donc c'est des postes peut-être avec moins de responsabilités, ou alors la structure en tant que telle n'a pas les moyens, voilà, de porter un poste de responsable. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est aussi compréhensible parce qu'on couvre une réalité qui est plurielle. On peut à la fois être sur un volet de transmission, donc ça va être par exemple des masterclass, des académies. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus en lien avec les scolaires. Donc là, on est plutôt sur des projets éducatifs. Ça peut être des choses avec des amateurs. C'est difficile, je pense, de trouver une définition, mais ce serait bien qu'on s'y attelle et qu'on en trouve une.
Comment est-ce que tu es devenue responsable de l'action culturelle à l'ensemble intercontemporain ?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des études de médiation culturelle. Et avant même d'être diplômée de mon Master 2, j'avais trouvé un poste de chargée de l'action culturelle au sein de Pro Quartet, qui est le Centre européen de musique de chambre. Et j'ai beaucoup aimé cette première expérience parce que j'étais dans une petite structure, on était 6 en tout. Et donc même si j'avais une casquette de chargée, j'avais vraiment l'impression d'avoir un terrain de jeu assez formidable avec des ensembles, donc des quatuors à cordes principalement, mais aussi des trios avec piano, qui avaient à peu près le même âge que moi, on se lançait tous ensemble. Et donc on interrogeait beaucoup la médiation, on a fait des projets en prison, en école, avec des amateurs, on a fait plein de choses. Et au bout de quelques années, j'ai vu cette annonce à l'Ensemble Intercontemporain. Et là, ça m'a vraiment donné envie parce que la création est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et ça m'intéressait de travailler aussi pour un groupe constitué permanent.
Comment est-ce que tu penses un projet de médiation avec les structures, les artistes, les publics ?
Pour l'ensemble, là où j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il y a eu une étude du sociologue Stéphane Dorin qui analysait les publics de l'Ensemble Intercontemporain. Donc il y avait un peu un profil type des personnes qui venaient. C'est un public qui est plutôt paritaire, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. Plutôt des professions intellectuelles dites supérieures, des professions même scientifiques, des gens qui ont beaucoup de doctorats. Donc ça donne une idée un petit peu des personnes qui viennent. Et donc ça donnait déjà une idée de qui ne venait pas, c'est-à-dire tout l'inverse. Peut-être les personnes moins qualifiées, je sais qu'on a très peu d'ouvriers qui viennent à l'ensemble. Donc ça, ça a été un bon point de départ. Le deuxième point de départ, ça a été l'envie des musiciens. J'ai pu, en arrivant, rencontrer chaque soliste de l'Ensemble Intercontemporain, voir leurs envies. D'ailleurs, j'ai été très agréablement surprise de voir que chacun et chacune avait envie de faire des choses à différents endroits, mais j'ai eu personne qui m'a dit « moi, ça ne m'intéresse absolument pas ». Bon, ça, c'est une vraie chance aussi. Et ensuite, le troisième, guide, c'est aussi les tutelles qui attendent de nous des choses bien précises. Voilà, c'est les trois critères sur lesquels je me suis basée pour développer en fait, des projets et construire un peu une programmation d'action culturelle pour l'Ensemble Intercontemporain.
Tu es donc en relation avec beaucoup de monde. Du coup, quels sont tes rapports avec ces artistes et ces publics ?
Rapport avec les artistes, c'est ce que je préfère, bien sûr. Je pense que je ne le fais pas assez, d'ailleurs, mais je le fais de plus en plus. C'est vraiment leur confier l'idée principale. C'est eux qui ont une connaissance du répertoire, c'est eux qui ont une connaissance des instruments, qui ont une sensibilité, et c'est de là que tout part. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est de l'action culturelle qu'on doit oublier toute la partie artistique. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est quand même l'art, c'est les œuvres, c'est ce lien justement aux artistes qui en plus côtoient des compositeurs et compositrices vivants, donc qui ont une vraie mémoire des échanges qu'ils ont pu avoir avec eux ou elles. Ça, c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la partie avec le public m'intéresse toujours aussi parce que ça nous sort un peu de notre milieu. Un public qui vient régulièrement où notre milieu peut parfois oublier la magie du spectacle ou l'interrogation qu'une œuvre peut venir nous imposer. Et je trouve que travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément en lien direct avec nos concerts, ça permet un autre point de vue et ça permet de se rappeler qu'on est dans ce monde du spectacle, de l'exigence, des émotions.
Quel est, pour toi, le projet dont tu es la plus fière ? Voire, pourquoi pas, la moins fière ?
Le projet que j'ai le plus aimé cette saison, c'est un projet qui s'appelle Displacement. C'est une coproduction avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. C'est un festival de danse contemporaine. Et en fait, ma prédécesseur, Sylvie Cohen, avait noué des liens avec la Croix-Rouge de Bobigny, avec des mineurs non accompagnés, des jeunes qui arrivent sur le territoire français sans tutelle, qui sont récupérés par la Croix-Rouge et accompagnés par eux. Et les projets qu'elle avait menés, c'était beaucoup de projets de médiation où nos musiciens allaient dans leurs locaux, leur présenter le répertoire, les instruments. Et à l'inverse, ils venaient aussi à la Philharmonie pour écouter certaines de nos répétitions. Moi, je trouvais ça très bien, mais je voulais aller un cran au-dessus et les impliquer dans un processus de création. L'idée de maîtriser un instrument, c'est un peu long, à part tout ce qui est orchestre percussif. Et la danse m'est apparue comme un bon moyen, en fait, de s'approprier assez vite un moyen d'expression qui leur permette un peu d'avoir une forme d'exutoire sur ce qu'ils ont pu vivre. Je trouve que ça a été une très belle création parce que, justement, le résultat final était très beau avec un investissement total des musiciens, des participants, mais aussi du public dont on a eu de très beaux retours.
Est-ce qu'il y a une œuvre cette saison qui t'a marqué et dont tu pourrais nous parler un petit peu ?
Cette saison, il y a une œuvre en particulier qui m'a même bouleversée. Ça s'appelle 448 Psychosis de Philip Venables. C'est un compositeur qui s'est emparé d'une œuvre de Sarah Kane, une auteure qui avait des grands problèmes psychologiques, qui a été internée et qui a écrit des cahiers, en fait, des livres. Et elle avait un traitement assez lourd qu'elle prenait à partir de 6h du matin. Et en fait, elle se réveillait spontanément la nuit à 4h48. Donc elle avait 1h12 de lucidité pendant lesquelles elle a beaucoup écrit. Et Philip Venables a réussi à mettre en musique une sorte de petit opéra. Il y avait le texte qui s'affichait à l'écran avec souligné par la musique et par le chant. Il y avait notamment deux percussionnistes qui se répondaient en permanence pour donner un peu la voix à Sarah Kane. Et voilà, c'était vraiment la plus belle œuvre que j'ai vue cette saison.
Et du coup, toi, tu écoutais quoi quand tu étais petite ?
Moi, j'ai la chance d'avoir vécu dans une famille où on écoutait beaucoup de musique. Du côté de ma mère, c'était beaucoup de chansons françaises. Barbara, Léo Ferré, voilà, toute la clique. Et du côté de mon père, c'était plus Led Zeppelin, les Pink Floyd. Donc, j'ai été nourrie à ça. Et après, plus tard, je pense que j'ai un peu des choses comme Trio, que j'assume pleinement. C'est mon côté un peu babos, mais qui a égayé beaucoup de mes soirées. Et des choses comme Muse, voilà, du rock. Et c'est vrai que, et je le dis pas pour, disons, me donner un air intéressant, mais j'écoutais aussi beaucoup de musique classique parce que j'ai fait du conservatoire pendant une quinzaine d'années et que c'est toujours un répertoire qui m'a passionnée. J'écoutais pas de musique contemporaine à l'époque, ça c'est venu plus tard. Mais voilà, en tout cas, ce que j'écoutais petite.
Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ?
Je pense que pour faire ce métier, encore une fois, il faut des convictions. Donc vraiment s'interroger sur si c'est la voie qu'on a envie de prendre dans la culture. De pas oublier que ça reste important. Parfois, on l'oublie un peu parce qu'on peut perdre un peu de vue que même si on s'interroge beaucoup, ça reste important. Et un autre conseil, c'est de se mettre en réseau. C'est de ne pas hésiter à solliciter d'autres responsables de l'action culturelle, d'autres structures pour échanger les points de vue, échanger les bons tuyaux, ce qui marche moins, et de vraiment parler avec les partenaires et avec les responsables d'action culturelle d'autres structures. Ça, je pense que c'est le plus important.
La volonté de décloisonnement semble être au cœur du projet de PIA. Faire dialoguer les publics, les impliquer, et surtout remettre sans cesse en question les pratiques. La médiation est loin d'être une simple approche transmissive des œuvres. Il s'agit avant tout d'un acte d'engagement. Lors du prochain épisode, nous irons à la rencontre d'Arnaud Julien, chargé du pôle transmission du GMEM.